Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. À la une tête coupée, interdiction de manifester et on tape au portefeuille. C'est la riposte de l'exécutif 48 heures après le saccage des Champs-Élysées. Le Premier ministre, sous pression, vient d'annoncer une série de mesures pour en finir avec les violences et donc notamment le limogeage du préfet de police de Paris. Dans RTL Soir, on va vous détailler cette réponse sécuritaire. À 18h20, la réaction de l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. À 18h30, analyse d'Alain Duhamel. À 19h15, on refait le monde. Mais dans RTL Soir également, vous entendrez le témoignage d'un héros, le chef de l'unité de police qui a sauvé 11 personnes, dont un bébé et sa maman dans l'immeuble incendié près des Champs-Élysées. Et puis, il a été l'un des symboles de l'opposition aux forces de l'ordre. RTL a rencontré Christophe Détinger. On va vous emmener en coulisses de la nouvelle vie de l'ex-boxeur, aujourd'hui en semi-liberté. RTL Soir, première édition, avec vous Céline Landreau, bonsoir.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres de l'actualité.
3 morts et 9 blessés à Utrecht aux Pays-Bas après une probable attaque terroriste. Des fusillades, notamment dans un tramway, le tireur est toujours en fuite. Nous serons sur place dans ce journal. Après la grève des douaniers, celle des transporteurs routiers. Le Brexit continue de parasiter le trafic au nord de la France. Et puis, 10 fois la puissance d'Hiroshima, une météorite a implosé au-dessus de la Terre en décembre. On vient seulement de l'apprendre. La bourse de Paris termine ce soir en légère hausse, plus 0,14%. Le CAC 40 s'établit à 5412 points. Enfin, les courses à Compiègne, il fallait jouer le 12, l'As, le 14, le 3 et le 6.
À 18h35, le documentaire événement qui fait scandale, l'enquête dont tout le monde parle à travers la planète, Michael Jackson, pédophile, viol, attouchement, emprise. Le film accablant de Dan Reed sera diffusé jeudi soir sur M6. Dan Reed avec nous tout à l'heure. La météo. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Marc-Olivier.
Et globalement, ça ira mieux demain.
Oui, on retrouvera un ciel plus lumineux avec des éclaircies sur la majeure partie du pays après dissipation des brouillards de la matinée. Quelques exceptions tout de même, les Pyrénées où ça restera gris et pluvieux avec de la neige à 800 mètres, quelques ondées orageuses possibles en Corse et un ciel nuageux le long des côtes de la Manche avec un risque d'averse. Côté température, froid le matin, de saison l'après-midi de 11 à 14 degrés au nord et de 14 à 17 au sud.
A tout à l'heure Peggy Broche.
A tout à l'heure.
RTL Soir. Fermeté affichée, le gouvernement donc hausse le ton au surlendemain de l'acte 18 et des violences donc qui ont émaillé les manifestations des Gilets jaunes, Céline.
C'est le Premier ministre Édouard Philippe, oui, qui s'est chargé de faire plusieurs annonces cet après-midi. Une allocution de quelques minutes depuis Matignon aux côtés des ministres de l'Intérieur et de la Justice pour éviter de revoir les scènes de saccage qui ont eu lieu samedi. Les moyens vont être renforcés. Les manifestations pourront être interdites sur certains secteurs et notamment sur les Champs-Élysées à Paris où le préfet de police, Michel Delpech, est écarté, Dominique Tenza.
Oui, sans même prononcer son nom, le Premier ministre choisit donc de renvoyer le préfet de police et de le remplacer dès cette semaine par Didier Lallemand, l'actuel préfet de Gironde, conséquence du fiasco sécuritaire et des actes ultra-violents perpétrés samedi.
Ces actes sont des actes criminels. La réponse du gouvernement doit donc être forte.
À commencer par un changement radical de stratégie. Beaucoup plus de fermeté, promet Édouard Philippe, qui est d'abord revenu sur les fameux lanceurs de balles efficaces, contrairement aux critiques qui en sont faites.
Les polémiques sur l'usage des lanceurs de balles de défense ont conduit à ce que des consignes inappropriées soient passées pour réduire leur usage.
Leur utilisation n'est donc absolument pas remise en cause. Par ailleurs, les forces de sécurité se verront dotées dès samedi de nouveaux outils. Il y aura notamment des drones, ce qu'on appelle aussi des produits marquants qui se fixent sur les vêtements et sur la peau et qui permettent d'identifier par la suite les fauteurs de troubles. Et puis vous le disiez, certaines zones seront interdites aux Gilets jaunes, les Champs-Élysées, la place Péberlan à Bordeaux et celle du Capitole à Toulouse. Et puis enfin, cette mise en garde à toutes ces personnalités, entre guillemets, explique Édouard Philippe, qui doivent savoir qu'elles ne seront désormais plus intouchables.
Tous ceux qui participent, qui de facto protègent les casseurs, qui les encouragent ou les glorifient sur les réseaux sociaux, se rendent complices. Ils devront prendre leurs responsabilités.
Et dans ce cadre, le Premier ministre annonce la saisie de la justice contre tous les leaders qui encouragent et continueraient d'encourager les violences.
À Matignon pour RTL, Dominique Tenza.
Et Édouard Philippe, qui sera ce soir l'invité du 20h de France 2, a donc fait des annonces fortes. Vous venez de l'entendre, annonce dont se félicitent les forces de l'ordre, Stanislas Godon du syndicat Alliance.
Un discours de fermeté que nous attendions depuis longtemps. Des interdictions de manifester lorsqu'il y a des risques de troubles à l'ordre public qui pourraient subvenir et notamment sur des lieux bien connus. Le deuxième point, arsenal renforcé en doctrine, avec notamment des ordres clairs, visiblement, qui seront donnés pour de l'interpellation, de la mobilité et de la gestion du maintien de l'ordre, non pas statique, non pas passif, mais actif. Pour nous, c'est plutôt favorable. Après, évidemment, il faut que tout le monde prenne bien conscience que lorsqu'il y aura des individus dangereux, organisés, type Black Blocs, il y aura donc du contact. Et donc, ça veut dire qu'il est possible que tout le monde soit exposé, effectivement, à ce qu'il y ait des blessés ou des dommages collatéraux.
Réaction recueillie par Guillaume Chies du service police-justice de RTL.
Analyse nettement différente chez les Insoumis. Le député Éric Coquerel dénonce par exemple des mesures toujours plus répressives et liberticides.
Et à 18h20, la réaction de l'ex-ministre de l'Intérieur bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, invité d'RTL Soir. Les casseurs de samedi sont aujourd'hui face à la justice. Plusieurs dizaines d'entre eux passent en comparution immédiate à Paris.
Arrêtés pour leur participation aux heurts qui ont éclaté dans la capitale il y a deux jours, ils doivent désormais s'en expliquer. Alice Moreno, vous suivez les audiences pour RTL. Les réquisitions du procureur sont plutôt sévères, pour l'essentiel de la prison ferme.
Effectivement, comme pour ce jeune homme de 23 ans, Clément, dreadlocks coiffé en arrière, il comparaît pour avoir jeté une bouteille de bière en direction des forces de l'ordre. « Je regrette d'embêter votre tribunal pour un truc aussi nul », murmure-t-il dans le box. Mais pas de quoi attendrir le procureur. C'est facile de regretter ici. C'est avant qu'il faut réfléchir, lance-t-il, qualifiant un tel acte d'inadmissible. Il requiert 5 mois de prison ferme assorti d'un mandat de dépôt. Et le procureur garde ainsi le même ton au fil des comparution quand Raphaël, un apiculteur de 33 ans, regrette à son tour d'avoir ramassé, dit-il, des vêtements volés lors des pillages sur les Champs-Élysées. Le procureur l'interpelle. Que diriez-vous si une bande d'imbéciles venait piller votre miellerie? Et il requiert 4 mois de prison ferme.
Alice, ces casseurs de l'acte 18 ne sont pas les premiers à avoir affaire à la justice. Depuis la mi-novembre, plus de 8200 personnes ont été placées en garde à vue.
Effectivement, 8250 gardes à vue exactement et 1800 condamnations. Mais ce nombre de condamnations pourrait être largement revu à la hausse car dans certains cas, les procédures sont longues. Leur issue pourrait être connue dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Le ministère de la Justice précise ainsi que 1800 affaires sont toujours en attente de jugement. Sur les condamnations déjà prononcées, 40% ont donné lieu à des peines d'emprisonnement ferme entre quelques mois et 3 ans. Les peines avec sursis représentent donc le reste, 60% des condamnations.
Au palais de justice de Paris pour RTL, Alice Moreno.
Les dégâts liés aux manifestations des Gilets jaunes ont été estimés à 170 millions d'euros par la Fédération française de l'assurance. Et cela sans compter le dernier épisode, l'acte 18 particulièrement violent, vous le savez, sur les Champs-Élysées le week-end dernier. Plusieurs bâtiments, des kiosques, le restaurant Le Fouquet's ainsi qu'une banque ont ainsi été incendiés.
Et invité de ce journal, un héros, le chef de l'unité de police qui a sauvé 11 personnes, dont un bébé et sa maman, des flammes de l'immeuble incendié près des Champs-Élysées samedi. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Samedi, donc à la mi-journée, des casseurs ont mis le feu à une banque. Le feu a pris dans tout l'immeuble. 11 personnes ont été sauvées par les forces de l'ordre, dont une maman et son bébé, au deuxième étage. On vous le doit. Racontez-nous ce qui s'est passé.
Alors, donc, moi, j'étais engagé avec mon groupe sur le saccage de cette banque. Mmh. Donc, on a fait face à 200 de manifestants avec plusieurs groupes de policiers, des individus très hostiles qu'on a repoussés dans la rue Franklin Roosevelt. Mmh. Et dans un second temps, après quelques minutes d'affrontement, on a vu des dégagements de fumée dans cette banque. Et effectivement, progressivement, la fumée s'épaississait, les flammes montaient et on a aperçu au bout d'un moment effectivement cette dame et son enfant à la fenêtre. Voilà. Et du coup, j'ai pris la décision de rentrer avec plusieurs autres de mes collègues pour essayer d'évacuer l'immeuble petit à petit.
On pense au danger dans ces cas-là ?
On y pense forcément. Là, on avait beaucoup de paramètres à considérer. Ensuite, on est rentré dans un premier temps. Je suis rentré avec quelques collègues. Il y avait une fumée épaisse et on pouvait rien voir dans le hall. Donc, on s'y est repris à plusieurs reprises. On a cassé une porte au fond du hall d'immeuble, ce qui a permis l'évacuation des fumées. Et au bout de 3 reprises, on a pu enfin ouvrir la porte d'accès aux étages quand on a aperçu que la dame était tout à fait paniquée à l'étage avec son bébé.
On imagine, mais cette femme avec ce bébé, quand vous l'avez vue paniquer, qu'avez-vous ressenti? Que lui avez-vous dit?
Je ne me rappelle plus exactement. C'est d'ailleurs un collègue qui est monté avec moi après avoir ouvert la porte. Il a récupéré le bébé dès qu'il a vu. Voilà, il n'y a pas trop le temps de se parler. Elle a tout de suite compris qu'il fallait descendre. D'ailleurs, c'est ce qu'elle attendait avec sa famille. Et puis voilà, après, on a tous travaillé main dans la main pour évacuer les personnes au plus vite et puis surtout ressortir nous-mêmes le plus rapidement possible. Voilà. Donc tout finit bien, heureusement, mais c'est vrai que ça aurait pu être dramatique pour les résidents ou pour nous-mêmes en prenant la décision de monter.
Et pour conclure, tout le monde va bien dans votre équipe ce soir et les 11 habitants de l'immeuble ?
Oui. Les 11 habitants de l'immeuble, on en a revu quelques-uns. Chaleureusement, le lendemain, pour les équipes, tout le monde a repris le travail en tout cas en ce qui concerne mes équipes, avec toujours autant de détermination, mais voilà, la santé va mieux.
Merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir sur RTL, merci à vous.
Merci bien.
RTL soir 18h10.
On marque une pause dans ce journal et dans un instant direction Utrecht, c'est aux Pays-Bas, théâtre d'une possible attaque terroriste qui a fait 3 morts. Le tireur en fuite, 3 morts donc, et un tireur toujours en fuite ce soir après une probable attaque terroriste à Utrecht, c'est aux Pays-Bas.
La police néerlandaise est à la recherche d'un homme de 37 ans originaire de Turquie, tireur présumé des fusillades qui ont eu lieu dans le tramway et à plusieurs endroits de la ville. Le bilan est lourd, 3 morts, 9 blessés. La sécurité a donc été renforcée dans cette ville du centre des Pays-Bas où vous êtes pour RTL, Frank Hanson. D'importants moyens policiers sont déployés pour retrouver l'assaillant.
Oui, plusieurs secteurs de la ville sont toujours bouclés ici ce soir, même si les habitants d'Utrecht peuvent de nouveau sortir de chez eux. La chasse à l'homme menée par les policiers néerlandais et les forces spéciales se poursuit avec d'importants moyens, vous l'avez dit. Les autorités ont diffusé le portrait robot de ce tireur, un Turc de 37 ans, Tanis Gökmen, qui vivait dans ce quartier populaire du Canal Lan où la fusillade a éclaté ce matin. Je me trouve d'ailleurs en ce moment devant le tramway à l'arrêt où l'homme a ouvert le feu tout à l'heure. Des enquêteurs effectuent encore des prélèvements. Les sources varient, mais il n'y aurait eu qu'un seul échange de tirs et les riverains comme Lenny et Hans qui habitent juste en face sont encore abasourdis.
C'est grave et douloureux pour la victime. Nous avons vu la police, nous avons peur. Oui, le tireur, il n'est pas encore arrêté alors. On a dit rester à la maison parce que le terrorisme est là. On ne sait pas où.
Et pour l'instant, les motivations du tireur restent encore floues. Le chef de la police néerlandaise doit s'exprimer en ce moment sur l'enquête. On ne peut en tout cas pas exclure le motif terroriste, c'est ce qui a été avancé dès le départ. Le Premier ministre a ouvert une cellule de crise pour suivre cette situation minute par minute. Le niveau d'alerte a en tout cas été relevé dans tout le pays et certains élus recommandent même de laisser fermer les écoles et les mosquées.
Frank Hanson, l'envoyé spécial de RTL à Utrecht, aux Pays-Bas.
Une rencontre privée et très discrète au Vatican. Le cardinal Barbarin est venu présenter sa démission au pape François après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels. Le pape pourrait se donner plusieurs semaines avant d'accepter ou non la démission de l'archevêque de Lyon.
Après la grève des douaniers, c'est la grève des transporteurs qui pourrait paralyser le nord du pays demain.
Oui, depuis 2 semaines maintenant, les douaniers des ports de Calais, Dunkerque, mais aussi de l'Eurotunnel ont entamé une grève du zèle. Ils réclament plus de moyens dans la perspective du Brexit. Les contrôles sont donc renforcés, 10 fois plus nombreux et les kilomètres de bouchons s'accumulent. De quoi excéder les transporteurs routiers qui, à leur tour, appellent à cesser le travail dès ce soir, 20h, en bloquant une partie de l'A16. Sébastien Riviera, secrétaire général de la Fédération nationale des transports routiers du Pas-de-Calais.
Aujourd'hui, on estime qu'on n'est pas du tout considéré. On a entre 5 et 10 heures d'attente pour nos poids lourds pour passer au tunnel ou au port. Un véhicule immobilisé, c'est 1 euro la minute. 10 heures d'attente, ça fait 600 euros de pertes sèches pour les entreprises. Et tous les poids lourds sont bloqués. Sur le flux transmanche, il y a des clients qui ne sont pas livrés, effectivement. On a des conducteurs qui ne veulent plus aller vers l'Angleterre compte tenu de ces heures d'attente. Des clients également qui sont livrés en retard. Donc ce sont également des annulations de commandes, tout simplement. Très concrètement, ce sont des actions qui sont mortifères pour nos entreprises. On attend que la situation soit régularisée. On ne peut plus supporter. Ça fait 2 semaines que nos activités sont perturbées. Nous, on ne peut plus être patient et laisser les douaniers et l'État continuer comme ça sans trouver de solution.
Des propos recueillis par Antoine Decarne pour RTL.
Et signe que le feuilleton du Brexit est encore loin d'être terminé, le président de la Chambre des communes s'oppose aujourd'hui à un 3e vote des parlementaires britanniques sur l'accord de divorce négocié entre Theresa May et Bruxelles au nom d'une législation datant de 1604.
Et puis pas sûr que la nouvelle soit très rassurante. rassurante. Une météorite a implosé au-dessus de la Terre. C'était il y a 3 mois et on ne l'apprend que maintenant.
Pour notre défense, il y a beaucoup d'eau sur cette planète, a réagi aujourd'hui un scientifique de la NASA. Les débris sont en effet tombés en pleine mer de Bering. La météorite s'est désintégrée plus haut, elle, à 25 km au-dessus de nos têtes, Odile Pouget.
Oui, une toute petite météorite, moins de 120 mètres de diamètre, mais qui a chuté à une vitesse de 32 km par seconde et qui a dégagé lors de l'implosion détectée par des satellites militaires américains une énergie équivalente à 10 fois la bombe d'Hiroshima. C'est l'implosion la plus importante après celle observée au-dessus de l'Oural. C'était en 2013 et qui, elle, avait fait plus d'un millier de blessés. Alors bien sûr, tout dépend de l'endroit de la chute, de l'inclinaison de la trajectoire et de bien d'autres paramètres. Antonella Barucci, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris.
Ça dépend aussi de la consistance du matériau. Ces matériaux, s'ils sont très friables, les dommages sont plus petits. Si c'est fait de fer, c'est beaucoup plus fort. Alors bien sûr, les risques, ce n'est pas énorme. Il y a plus de risques d'accident de voiture, d'accident d'avion, mais c'est un risque qui existe quand même.
D'où la nécessité de bien mieux surveiller la trajectoire des objets célestes qui s'approchent de la Terre. La NASA a comme mission d'ici 2020 de pouvoir détecter 90% des météores de moins de 140 mètres de diamètre. Apparemment, ce n'est pas encore le cas.
Merci beaucoup Odile Pouget. À tout à l'heure. Céline, vous revenez à 18h30.
À tout à l'heure.
RTL Soir, 18h17.